Radio Vatican, France et Afrique.
Mes auditeurs, mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme, dont voici les titres. Toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli à Rome, le pape poursuit sa thérapie. La traditionnelle collecte pour la Terre Sainte en perspective vendredi saint, 18 avril, dans une lettre adressée aux évêques du monde entier, le cardinal Claudio Guggerotti, préfet du dicastère pour les églises orientales, revient sur l'importance de faire renaître la vie dans cette région du monde. Et en ce qui concerne l'actualité de l'Église en Afrique, nous parlerons des sections annuelles des conférences épiscopales provinciales de Douala et Yaoundé au Cameroun, tenues respectivement du 10 au 14 mars 2025, et la prise de fonction du nouveau délégué national de l'Union du clergé béninois, le père Hubert Kadowidé. La passation de charge a eu lieu vendredi 14 mars au siège de la conférence épiscopale du Bénin. Après l'actualité sociopolitique africaine, vous entendrez de nouveau le père congolais Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, qui estime qu'il est grand temps pour l'Afrique de faire entendre sa voix dans tous les débats de société au niveau international. Et notre invité du jour, en fin d'édition, sera le père Rodrigue Gbejino, directeur de l'école d'initiation théologique de Cotonou. Le prêtre béninois nous parlera de son ouvrage, le synode sur la synodalité, défis pour l'Église et chances pour l'Église en Afrique.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape poursuit sa convalescence à l'hôpital Gemelli de Rome. Le souverain pontife poursuit ses thérapies prescrites, parmi lesquelles celles respiratoires et motrices, a précisé dimanche la salle de presse du Saint-Siège. La salle de presse vaticane, qui pour la première fois depuis son hospitalisation le 14 février pour une pneumonie bilatérale, a diffusé une photo du pape François après avoir concélébré l'Eucharistie du dimanche 16 mars au matin. Et les initiatives de prière pour le rétablissement du Saint-Père continuent à travers le monde entier. Ainsi, la prière du rosaire initiée par la Secrétaire d'État et le diocèse de Rome se poursuit place Saint-Pierre. Lundi 17 mars, elle a été présidée par le cardinal Dominique Mamberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. À un mois de la commémoration de la Passion du Christ vendredi saint, le Saint-Siège mobilise les évêques du monde entier pour aider la Terre Sainte. Dans son appel en faveur de la traditionnelle collecte du vendredi saint, qui lui est entièrement dévolue depuis 50 ans, le cardinal Guggerotti, en charge au Vatican des églises orientales, invite tous les diocèses à faire de cette quête une priorité pastorale. Car les plaies à panser sont nombreuses, la terre natale du Christ n'a pas été épargnée par les douleurs depuis 5 ans. Olivier Bonnel.
À peine remise de la paralysie de la pandémie et de son coup d'arrêt au pèlerinage, le berceau originel du christianisme a basculé dans les affres de la guerre il y a près de 18 mois. Sa survie est désormais menacée par l'exil ou l'asphyxie économique. Toutes ces difficultés confèrent donc à cette collecte pour la Terre Sainte une importance vitale cette année. Le préfet du dicastère pour les églises orientales parle de priorité pastorale pour tous les diocèses dont les évêques doivent, dit-il, se faire des apôtres persuasifs. Il s'agit d'aider à faire renaître la vie sur place, quel qu'en soit le moyen ou le soutien offert, paroisses, écoles, hôpitaux, centres de réfugiés, soutenir la formation des prêtres et des religieux ou contribuer à la préservation des lieux saints. Les enfants en particulier ont le droit de vivre en paix sans avoir la peur de revoir le sourire satanique de la mort, écrit le cardinal Guggerotti, qui était encore en Syrie il y a quelques semaines. Ce don généreux est sans nul doute un instrument de paix que Dieu n'oubliera pas en cette année jubilaire de l'espérance. Il ne concerne pas seulement Israël ou la Palestine, mais bien toutes ces contrées des Écritures où l'histoire du salut fut contée, comme la Turquie, l'Éthiopie ou encore l'Iran et l'Irak.
Merci à vous, Olivier Bonnel. Et à partir du 21 mars, des prédications de carême seront proposées à tous ceux qui le souhaitent sur le thème « Ancré dans le Christ, enraciné et fondé dans l'espérance de la vie nouvelle ». Le père Roberto Pasolini, prédicateur de la Maison Pontificale, les prêchera les quatre vendredis précédant la Semaine Sainte. Au moins 145 prêtres ont été enlevés au Nigeria en 10 ans. Et c'est ce qui ressort de l'analyse effectuée par le secrétariat catholique du Nigeria qui a recueilli les données sur les enlèvements de prêtres nigérians pour la période de 2015-2025. Sur les 45 prêtres enlevés, 11 ont été ensuite tués, tandis que 4 sont toujours portés disparus. Tous les autres ont été libérés. Restons sur le continent africain. Les évêques des conférences épiscopales provinciales de Douala et Yaoundé au Cameroun ont tenu respectivement leur session annuelle du 10 au 14 mars 2025. Pour l'archidiocèse de Yaoundé, les travaux avaient pour thème « Synodalité, un art de vivre » dans la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé aujourd'hui. Quant à Douala, l'attention a été portée sur les nouvelles possibilités d'évangélisation à l'ère des mutations sociales et technologiques. Paul Valérie Mendogo.
Les évêques de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé se sont réunis au centre pastoral à Maurice Laetitia de Bolova. Le président en exercice, Mgr Philippe Alain Barga, a invité ses pères et tout le peuple de Dieu à une conversion synodale en prenant conscience de la nécessité de surpasser l'ego et de faire place à la sanctification des âmes par le service fidèle de l'Église.
Maintenant, Bolova aura été le lieu et le cadre qui aura servi à une réflexion profonde. Comment est-ce que les évêques de la conférence peuvent se mettre ensemble pour le bien du peuple de Dieu, de sorte qu'on n'ait pas plusieurs églises, mais qu'on ait une diversité de la même église.
Tandis que les évêques de la province ecclésiastique de Douala ont tenu leurs assises dans le diocèse d'Ezeka, au-delà des rubriques ordinaires, ils ont insisté sur la nécessité d'adopter les technologies de l'information et de la communication dans les enseignements et de rejoindre les personnes dans les réalités qui sont les leurs afin de leur apporter la lumière du Christ. Durant leurs homélies à Ebolova comme à Ezeka, les évêques ont éclairé les fidèles sur les grâces du jubilé. La tradition jubilaire est une opportunité offerte à l'humanité pour repartir sur de nouvelles bases, ont-ils déclaré. Paul Valérie Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Parlons également de cette passation de charge au niveau de l'Union du clergé béninois. Élu au mois de janvier dernier, le père Hubert Kedowidé a pris officiellement fonction au terme de la cérémonie de passation de charge entre lui et son prédécesseur, le père Patrick Bassisika, vendredi 14 mars, au siège de la conférence épiscopale béninoise. C'était en présence du secrétaire général adjoint de cette conférence épiscopale, le père Eric Okpeicha, représentant pour la circonstance les évêques béninois. Le compte rendu de notre correspondant sur place.
Fin janvier, 640 prêtres originaires du Bénin formant l'Union du clergé béninois étaient en assemblée générale à Natitengu, au nord du pays. Au cœur de ces assises annuelles, le 30 janvier, le père Hubert Kedowidé a été élu délégué national de l'association. Ce 14 mars, le père Patrick Sabisika, le délégué sortant, lui a cédé sa place après 8 ans à ce poste. Le père Hubert Kedowidé le remercie. Merci et annonce quelques chantiers du mandat qui commence.
Le père Sabisika Patrick, pour avoir travaillé avec lui, est irremplaçable. Père, vous n'êtes pas seulement un homme de grande taille, mais aussi grand par le cœur. Aujourd'hui, nous qui sommes héritiers d'un sillon de l'histoire, nous prenons l'engagement de demeurer des témoins et des bâtisseurs. Plusieurs défis sont là, la santé spirituelle et physique des prêtres, leur bien-être dans leur jeunesse comme dans leur vieillesse nous préoccupent et le bon fonctionnement de la mission de l'Église au Bénin, aux côtés de nos pères, les évêques.
Cotonou, Juste Rlanon pour Radio Vatican.
Parcourons à présent les pages consacrées à l'actualité sociopolitique africaine. Le M23, qui contrôle désormais de vastes pans de territoire dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi envoyer une délégation à Luanda, où la présidence angolaise a annoncé la tenue mardi 18 mars de pourparlers de paix entre le groupe armé et Kinshasa. Le président angolais João Lourenço est le médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la RDC qui s'est intensifié au cours des derniers mois. Une délégation de 5 personnes devait se rendre ce lundi 17 mars à Luanda, capitale de l'Angola, pour prendre part au dialogue direct à la demande des autorités angolaises, a indiqué sur le réseau social X le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, sans préciser qui sont les représentants du groupe armé anti-gouvernemental. Dimanche soir, la présidence congolaise avait annoncé pour sa part que Kinshasa sera aussi représenté mardi à Luanda par une délégation dont la composition n'a pas non plus été dévoilée. Toujours dans le cadre des conflits qui font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a imposé lundi des sanctions contre les chefs militaires rwandais et un responsable du secteur minier en raison de l'offensive du groupe armé M23 soutenue par le Rwanda. Ces sanctions prévoient l'interdiction de se rendre dans l'Union européenne ainsi qu'un gel des avoirs dans l'Union pour 9 personnes. Kigali a presque simultanément annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en RDC. Au Soudan, 6 personnes, parmi lesquelles 2 enfants, ont été tuées dans un bombardement des paramilitaires des forces de soutien rapide à Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum, a indiqué une source médicale lundi. Dans les débats de société, les questions africaines sont souvent des questions oubliées ou abordées de façon secondaire. C'est ce qu'a affirmé le père congolais Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi et membre de l'Académie pontificale pour la vie, dans la suite d'un entretien accordé à Radio Vatican. Il estime qu'il est temps pour les sociétés africaines et celles du Sud en général de se faire entendre.
D'une manière un peu générale, beaucoup de rencontres qui se déroulent abordent des questions, si on peut dire, du Nord global, le Grand Nord, l'Occident, les questions des sociétés qui s'y posent. Compte tenu de l'évolution de la science et souvent les questions, si on peut dire, du Sud global ou les questions de l'Afrique, c'est des questions parfois oubliées. C'est vrai qu'il y a des manières de faire, de travailler, qui sont nées dans un contexte social donné et qui sont conditionnées justement par l'évolution de ce contexte-là. Alors il faut que peut-être les sociétés du Sud, les sociétés africaines, parviennent aussi à lever un peu la voix pour se faire comprendre. Souvent, c'est des questions évoquées, mais évoquées de manière un peu globale ou passagère. Poser le problème de l'accompagnement de personnes âgées, effectivement, qui a été abordé, expliquer un peu la difficulté de personnes âgées, la solitude et ce qu'ils attendent de la société. C'est des problèmes qui peut-être ne se posent pas dans notre société à nous. Nous ne sommes pas dans des sociétés de solitude. Mais nous évoluons quand même dans des sociétés, si on peut dire, de la culture de la vie, mais aussi une société où règne la mort. Pour parler effectivement de mon pays, la République démocratique du Congo, qui depuis 30 ans est dans une situation de crise permanente, avec de millions de morts, avec des millions de déplacés internes, avec des millions, des milliers de femmes dont la dignité est piétinée, des femmes violées. Et donc la question de la vie abordée à partir des situations, des contextes particuliers, à des notes un peu plus particulières. Ce serait donc mieux dans une certaine mesure que les participants de ces pays-là apportent ces questions-là dans des assemblées comme celle-là.
Et vous, étant participant de ces pays-là, oui, qu'est-ce que vous avez apporté à cette rencontre?
C'est ma deuxième participation. D'autres Africains qui sont là, qui ont un peu plus d'expérience et qui ont pu justement soulever, entre autres, ces questions-là. Peut-être que dans l'avenir, il y ait dans l'organisation des prises de parole où les différentes aires culturelles institutionnellement droit à la parole, pas seulement de leur propre initiative, c'est-à-dire dans la formulation des problématiques, formulation des questions qui vont être traitées, que le regard soit un regard qui embrasse le monde dans ses différentes aires culturelles.
Voilà le père Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, en République démocratique du Congo, et membre de l'Académie pontificale pour la vie. Il répondait aux questions de Marie-Josée Mwando Boboalo. Le pape François vient d'approuver le début d'un chemin synodal qui conduira à une assemblée ecclésiale en 2028. Il s'agit d'un processus d'accompagnement et d'évaluation de la phase d'application du synode sur la synodalité dans les églises locales avec l'aide du secrétariat général du synode. Tout en étant un défi, la synodalité représente aussi une chance pour l'Église. C'est bien l'avis du père Rodrigue Guedino, directeur de l'école d'initiation théologique de Cotonou. Le prêtre béninois vient de publier un livre intitulé justement « Le synode sur la synodalité, défi pour l'Église et chance pour l'Église en Afrique ».
Ce livre constitue pour moi un mot de participation à la vie de notre Église en modalité de synodalité parce que je parle à la fois de l'Église universelle et de l'Église en Afrique. La synodalité, c'est un concept à découvrir. Je dirais, plus que concept à découvrir, c'est une réalité à vivre et donc à découvrir. Comme le répétait Saint Jean Chrysostome, synode et Église sont synonymes. C'est la même chose. Et donc, découvrir le synode consiste à découvrir l'Église.
Et en quoi est-ce que la synodalité est un défi pour l'Église?
Le défi majeur pour l'Église aujourd'hui consiste à se découvrir elle-même, à découvrir son mystère. Et vous savez, le Concile Vatican II a été le tout premier concile où l'Église a voulu se définir elle-même, et non plus par rapport à la société, par rapport au pouvoir. Et la Lumen Gentium, qui est un peu la carta magna, c'est-à-dire la pièce maîtresse du Concile et les autres documents, ont offert plutôt des ébauches d'ecclésiologie. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers un peu de cette ecclésiologie que j'appelle une ecclésiologie en tension. Il nous revenait d'en assurer la synthèse et c'est là que se situe le vrai défi. Mais ce qui est manifeste, c'est que cette tension, cette ecclésiologie en tension, que dis-je, nous la vivons aujourd'hui en forme de haute tension entre deux approches. Il y a une première approche qui est l'approche sociologique de l'Église, qui se veut progressiste et qui certainement de bonne foi peut réduire l'Église aux paramètres sociaux avec le grave risque de vouloir l'adapter au monde. Et parce que dans cette approche, si l'Église s'adapte au monde, si l'Église vit selon certains paramètres du monde, elle pourrait encore avoir beaucoup de monde, elle pourrait attirer plus de gens. Et face à cette approche ou contre cette approche, il y a l'approche que j'appellerais spiritualisante, qui se veut conservatrice. Et de bonne foi, elle aussi réduit l'Église à une dimension purement spirituelle. Et là, l'Église peut apparaître comme un ghetto, en décalé avec la société, avec le monde. Et elle peut offrir une ecclésiologie de protestation.
Et le défi est donc de concilier les deux approches.
Et le défi pour nous aujourd'hui, c'est de découvrir le mystère de l'Église, de revenir à la nature de l'Église. Parce que l'Église est un mystère qui se dérobe.
Et donc la synodalité, c'est ce qui peut nous aider à revenir à la découverte de ce mystère.
Du mystère de l'Église.
En quoi alors est-ce que la synodalité est une chance pour l'Église en Afrique en particulier?
Oui, c'est une chance pour l'Église en Afrique en particulier. Parce que, vous voyez, dans mes réflexions sur l'Église en Afrique, j'ai publié un livre qui est « L'Afrique a-t-elle un avenir avec l'Église, l'heure et lueur ?» ou bien en 2021, « Où l'Afrique peut-elle évangéliser l'Europe ? Vérité sur la mission et responsabilité des Églises » en 2018. Et je voudrais situer, en lien avec ces deux ouvrages, la chance que la synodalité constitue pour l'Église en Afrique à trois niveaux. Le premier niveau, et l'Église en Afrique a été définie, on l'a dit plusieurs fois, par le Saint-Pape Paul VI comme la terre nouvelle du Christ, Nova Patria Christi, ou bien par Benoît XVI dans Africa Mundus, comme un poumon, une colonne, un poumon qui peut aider la société et le monde, même l'Église en crise aujourd'hui, un poumon spirituel. Et alors, une vraie synodalité favoriserait donc pour l'Église en Afrique une grande vitalité de sa foi, et ainsi, elle pourrait mieux enrichir aussi l'Église universelle, parce que la vie de foi est vive là-bas. Par la synodalité, l'Église en Afrique peut encore exprimer sa vie et cette vie-là pourrait être utile à l'Église universelle.
Le père Rodrigue Bidjinou, prêtre béninois, directeur de l'école d'initiation théologique de Cotonou. Il répondait aux questions de Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.
Contre toi et toi seul j'ai péché, délivre-moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, délivre-moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Délivre-moi. Ce